Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 64 de la Sainte Sourate Al-Amran. Notre frère Janati vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset porte sur l'appel fait aux gens du livre et aux croyants pour adhérer à un principe commun, l'adoration de Dieu l'unique.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن صدق الله العلي العظيم.
Dis, ô gens du livre, venez-en à un dire qui soit commun entre nous et vous, que nous n'adorions que Dieu sans rien lui associer, et que parmi nous, nul n'en prenne d'autre pour Seigneur en dehors de Dieu. Puis, s'il tourne le dos, eh bien dites, soyez témoins que oui, c'est nous qui sommes les soumis.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce mercredi 15 mars 2023. Nous allons vous présenter tout de suite le journal suivi d'un commentaire politique. L'Occident engagé dans la subversion et le terrorisme contre l'Iran. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, à en croire 15 rapports de l'AIEA, l'Iran n'a pas du tout violé ses obligations liées à l'accord nucléaire de 2015, insiste l'Agence iranienne de l'énergie atomique. Prisonniers français en Iran, l'approche non constructive de l'Élysée, un obstacle dans la procédure. Et puis la crise de l'identité a été révélée dans le nid d'araignée, déclaration du porte-parole de la diplomatie iranienne en allusion à la crise sévissant en Israël. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le porte-parole de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, OIEA, Behrouz Kamalvandi, a déclaré que selon 15 rapports de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'Iran n'a pas le moins du monde violé ses obligations. Ajoutant, l'enrichissement de 60% à Fordow était une réponse à leur résolution précédente contre-productive anti-iranienne dans le Conseil des gouverneurs. Il a ajouté « Nous ne devons pas l'oublier. Au début, les Européens ont critiqué les États-Unis et ont déploré dans leur déclaration le retrait unilatéral du plan global d'action conjoint sur le nucléaire de 2015. Mais maintenant, ils commentent les choses et agissent et réagissent d'une manière comme si c'est l'Iran qui est responsable de la situation actuelle. » Prisonniers français en Iran, l'approche non constructive de l'Élysée est un obstacle dans la procédure. Le gouvernement français a eu une approche non constructive et un rôle interventionniste par rapport aux récents événements internes de l'Iran. Le maintien de telles positions ne peut pas être utile pour les problèmes des prisonniers, a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. S'exprimant à l'occasion d'un point de presse et en réponse à la correspondante de la télévision française TF1 qui a interrogé Kanani sur l'affaire des prisonniers français en Iran, Kanani a répondu « La position de l'Iran dans ce domaine a été annoncée à plusieurs reprises. Les personnes qui ont été arrêtées en Iran ont joué un rôle dans les récentes émeutes et leurs actions étaient des actions criminelles selon les lois nationales de l'Iran et ils ont été arrêtés à cet égard. » Et la procédure judiciaire les concernant est en cours. Dans une déclaration, le vice-ministre iranien de l'Intérieur parle du rôle de la DGSE dans les complots contre l'Iran. Dans une déclaration, Mohammad Reza Gholam Reza, vice-ministre iranien de l'Intérieur, a pointé du doigt les conspirations et les efforts des organisations de renseignement occidentales depuis le début de la victoire de la révolution islamique en 1979. en énumérant le rôle des services étrangers et de renseignement impliqués dans les complots israéliens contre l'Iran. Ce responsable sécuritaire a affirmé que la direction de la gestion de la sécurité extérieure, DGSE, de la République française, était toujours l'un des alliés du régime sioniste. L'amiral Shamkhani se rend aux Émirats arabes unis. Le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale d'Iran, Ali Shamkhani, se rendra demain, 16 mars, aux Émirats arabes unis. Le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale d'Iran, à l'invitation officielle de son homologue émirati, s'y rendra. Lors de cette visite, l'amiral Shamkhani rencontrera son homologue émirati et de hauts responsables de ce pays et discutera des questions bilatérales, régionales et internationales. Enfin, la crise de l'identité a été révélée dans le nid d'araignées. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré « Les émeutes de rue à Tel Aviv et dans d'autres zones occupées durent depuis 10 semaines ». Le chef de la diplomatie iranienne a tweeté « La crise cachée de l'identité dans le nid d'araignées a été révélée. Les émeutes de rue à Tel Aviv et dans d'autres zones occupées se déroulent par intermittence depuis 10 semaines. Bien sûr, ce n'est qu'une des crises concentrées du régime sioniste. Une fondation sans racines s'effondra avec une rafale de vent », a-t-il conclu. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Reste avec nous. Merci. L'Occident engagé dans la subversion et le terrorisme contre l'Iran. Les services de renseignement, les gouvernements et les médias occidentaux engagés dans la subversion des ennemis, y compris l'Iran. Les agences de renseignement britanniques, en particulier le Secret Intelligence Service, SIS, généralement connu sous le nom de MI6, ont une longue histoire d'intervention à l'étranger et de subversion de nations souveraines dans la poursuite des intérêts de l'impérialisme britannique et plus récemment des intérêts des États-Unis et de leurs alliés, y compris Israël. Il ne devrait donc pas être surprenant d'apprendre que les Britanniques ont peut-être joué un rôle dans l'assassinat du scientifique nucléaire iranien Mohsen Fakhrizadeh en 2020. Il a été rapporté qu'Akbari, Alireza Akbari, un ancien responsable iranien qui a été exécuté après avoir été condamné à mort pour espionnage au profit du MI6, a déclaré qu'un agent britannique avait demandé des informations sur Fakhrizadeh. Cela soulève la question de savoir si le MI6 était impliqué d'une manière et d'une autre dans l'assassinat de Fakhrizadeh. Les premiers rapports avaient jeté le doute sur les plaintes iraniennes concernant l'utilisation d'armes de haute technologie dans cet assassinat. Le Mossad s'est donné du mal pour s'assurer que le monde savait qu'il avait commis le meurtre en donnant des informations détaillées au Jewish Chronicle basé au Royaume-Uni. Le JC, comme on le sait, a récemment été repris par des sionistes extrémistes, la nouvelle société étant détenue uniquement par l'ancien conseiller de Downing Street, Robbie Jeep, qui a des antécédents d'implication dans des activités secrètes de renseignement. Les reportages détaillés sur les activités du Mossad sont un nouveau départ pour le journal. Les briefings ont affirmé en cours de route qu'aucune autre agence de renseignement n'était impliquée, bien qu'il ait été avancé que la CIA en avait une certaine conscience. La confession d'Akbari peut mettre cela en doute. le recrutement d'espions et d'agents et leur utilisation dans des complots d'assassinats ne sont qu'une petite partie des tactiques répandues utilisées par l'OMI6 dans les pays du monde entier et en particulier en Asie de l'Ouest. L'OMI6 investit également massivement dans la propagande et l'utilisation d'organisations non gouvernementales et d'entreprises comme groupes de façade, ainsi que dans la mobilisation des mandataires terroristes contre des États souverains. Comme on le sait bien, l'OMI6 a joué un rôle de premier plan dans le coup d'État qui a renversé le gouvernement Mossadegh en Iran en 1953, complotant le coup d'État pendant des années, même si pendant un certain temps, ils n'ont pas réussi à susciter l'intérêt de la CIA. Les Britanniques ont conspiré avec Israël et la France pour envahir l'Égypte en 1956, seulement pour accéder immédiatement aux instructions d'un US surpris de cesser l'opération, comme le montrent les dossiers américains déclassifiés. C'était une indication que le pouvoir de l'impérialisme britannique, en tant qu'acteur indépendant dans le monde, était sévèrement réduit. Mais cela n'a pas arrêté le rôle interventionniste et propagandiste du MI6 depuis plus de 60 ans. À cela s'ajoute la diabolisation de la Russie. Qui dans le monde, à part les citoyens britanniques, assez crédules pour croire les fantômes, croit vraiment l'agent double russe Sergueï Skripal a été empoisonné avec un agent neurotoxique, prétendument appelé Novichok, par des agents russes. Skripal avait élu domicile dans le paisible ville de Salisbury, juste à côté de son supérieur du MI6, Pablo Miller, dont le ministère de la Défense s'est donné beaucoup de mal pour dissimuler l'identité. Salisbury abrite bien sûr l'établissement britannique de guerre chimique et biologique Porton Down, qui a une histoire illustre en matière de doute moral. Il a été impliqué dans l'empoisonnement de l'île écossaise de Grunier avec l'anthrax dans les années 1940, la rendant inhabitable et en quarantaine pendant 48 jours jusqu'en 1990. Les scientifiques de Porton Down ont également testé plus de 1500 sujets avec des agents neurotoxiques, dont près de 400 avec du sarin dans les années 1950. Cela a été fait sans le consentement éclairé du sujet, bien qu'un tel consentement soit requis au Royaume-Uni à partir des années 1930 et malgré la promulgation du Code de Nuremberg développé à la suite des atrocités nazies, y compris l'expérimentation d'agents neurotoxiques. Certains en sont morts et cela a été dissimulé pendant 50 ans. À cela s'ajoute la diabolisation de la Syrie et le démembrement de la Libye. Enfin, appuyé sur le bouton émeute en Iran et le rôle des États-Unis et des sionistes, nous pouvons examiner comment ces tentatives de subversion ont été opérées dans la récente manifestation, soi-disant en Iran. Qu'y a-t-il derrière les émeutes et les manifestations en Iran? S'agit-il d'un soulèvement, disons, organique, ou y a-t-il des acteurs géopolitiques externes à l'œuvre? La guerre hybride contre la République islamique d'Iran et d'autres États ennemis donne une impression de vertige et d'écrasement, mais n'est pas toujours couronnée de succès. Il reste beaucoup à faire pour la comprendre et la décrire afin qu'elle soit mieux comprise et qu'elle puisse être combattue plus efficacement.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne, Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors, dans ce débat, il sera question du rétablissement des relations entre l'Iran et l'Arabie saoudite par la médiation chinoise. Nous allons étudier à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure les aspects donc, de cette annonce, également les impacts donc, des relations entre les deux pays, pour déjà les deux pays, mais également pour les pays de la région et pourquoi pas au-delà. Et nous allons voir également la puissance diplomatique de la Chine dans cette médiation, ce qui ne réjouit pas forcément à Israël, aux États-Unis et à certains pays européens. Et je vais vous présenter nos deux chers invités, en commençant par Morgan Lotz. Depuis l'Alsace, il est iranologue et juriste en droit international. Monsieur Lotz, bonjour.
Bonjour, bonjour. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour l'invitation et également de saluer toute votre équipe et mon collègue avec qui je vais débattre.
Très bien. Un grand bonjour également à Jacob Cohen. Depuis Paris cette fois, il est écrivain et analyste politique. Monsieur Cohen, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour à tous.
Voilà, merci d'accorder votre temps à cette émission. Ma première question va s'adresser à vous, Monsieur Jacob Cohen, alors depuis Paris. Alors, nous parlons bien sûr du rétablissement des relations entre l'Arabie saoudite et l'Iran et par la médiation chinoise. Et ma question est la suivante. Quels sont, d'après vous, les impacts pour les deux pays, mais également pour les pays de la région?
D'abord, ça élimine une menace de guerre entretenue insidieusement par l'axe américano-sioniste. Vous savez que, rappelez-vous, la guerre entre l'Iran et l'Irak, malheureusement, les deux pays sont tombés dans le piège tendu par... Enfin, au départ, c'était Saddam Hussein, et il a payé très cher. Une guerre de 8 ans que les Américains, dont les Américains avaient fourni les deux belligérants en armement. Et toute l'action de l'Amérique et d'Israël, bien sûr, était de susciter une animosité irréversible, irrémédiable entre ces deux grands pays. Et d'ailleurs, la propagande israélienne a toujours fonctionné pour établir des relations diplomatiques avec les monarchies du Golfe. La diplomatie israélienne, le renseignement israélien, la propagande, parlait toujours de l'impérialisme iranien, d'offrir la sécurité à ces monarchies pour les préserver de tout expansionnisme iranien. Et donc, le fait déjà d'échapper à ce piège tendu par l'Occident, par l'Amérique et Israël, le fait d'échapper à ce piège et de se dire « Non, nous ne voulons pas, nous n'irons pas vers la guerre, nous diminuerons la tension, nous chercherons des relations pacifiques », c'est un coup dur porté contre l'hégémonie américano-sioniste dans la région. Et une détente extraordinaire qui peut avoir des résultats très positifs dont nous reparlerons, je pense.
Bien sûr, merci. Alors, nous avons entendu l'introduction de M. Cohen. À présent, j'aimerais connaître celle de M. Morgan Lotz. Les impacts de ces relations rompues depuis 2016, M. Lotz.
Oui, alors déjà, il faut noter que... Je souhaiterais avant tout rappeler l'histoire. Donc, il faut noter que les ruptures des relations entre l'Iran et l'Arabie saoudite sont intervenues en janvier 2016, suite à l'exécution de l'ayatollah Nimr al-Nimr, le 2 janvier 2016, avec 47 autres personnes qui ont été décapitées en Arabie saoudite. Ce même jour, il y a eu donc des manifestations en Iran devant les représentations saoudiennes. Donc, il s'agissait de l'ambassade à Téhéran et d'un consulat à Mashhad. Et dès lors, les relations vont donc être rompues. Donc le retour des relations intervient cette année 2023, soit 7 ans après ces événements, avec des conséquences qui peuvent surprendre, qui étaient attendues et qui vont certainement nous surprendre sur le long terme. Donc tout d'abord, on peut citer une ouverture donc des représentations diplomatiques, une reprise des relations diplomatiques, mais également l'ouverture d'une paix durable au Yémen, puisque cela fait partie des choses qui peuvent être discutées. Ça traduit également un échec américain pour la formation au Moyen-Orient d'une espèce d'OTAN ou d'un équivalent au Moyen-Oriental à l'OTAN qui serait dirigé contre l'Iran. C'est également une transformation de la Chine qui était un acteur économique jusqu'à présent et qui devient un acteur de sécurité géopolitique et de diplomatie. C'est également l'avènement d'un monde multipolaire qui se centre sur l'Orient, c'est-à-dire que ce ne sont plus les États-Unis, ce n'est plus à Washington que se fait la paix et la guerre au Moyen-Orient, mais dans la région et sur le continent même, puisque le Moyen-Orient appartient à l'Asie. C'est également une chance pour la promotion de la paix et de la stabilité dans la région, puisque deux grandes puissances pouvant être qualifiées de rivales recommencent à se parler, donc elles pourront également se coordonner sur les grandes crises que pourrait rencontrer le Moyen-Orient. Et un autre point qui est positif, c'est la réduction de l'influence américaine dans la région, nous venons de le citer, et également l'affaiblissement de cette hégémonie américaine dans le monde, puisqu'aujourd'hui ce n'est plus vers Washington que les pays du Moyen-Orient se tournent, mais vers la Chine, qui profite justement de l'effritement occidental en cours. Hein. La diplomatie européenne ne représente plus grand-chose sinon elle-même, et les États-Unis sont en train de quitter cette région, autant sur le plan diplomatique que sur le plan militaire, bien qu'il reste des bases américaines en Syrie et en Irak. Mais ce n'est qu'une question de temps avant que les Américains quittent définitivement le Moyen-Orient. Et c'est...
Je crois bien que notre liaison avec M. Cohen a été coupée. À présent, je m'adresse à M. Oui. Alors, M. Cohen, est-ce que d'abord vous voulez bien réagir face aux propos de M. Lodz? Vous avez dit tout à l'heure que Israël, les États-Unis et beaucoup de pays européens ne se réjouissent pas beaucoup donc, de ce rapprochement des relations entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Est-ce qu'ils craignent l'avenir donc, de ce rapprochement qui sera donc au détriment de la politique d'Israël et des États-Unis?
C'est une catastrophe pour l'Occident. Vous savez, les médias israéliens sont vraiment, expriment beaucoup d'inquiétudes. Il y a même une guerre, une rivalité terrible entre l'ancien gouvernement et le nouveau, qui s'accusent mutuellement d'avoir permis cette possibilité qui était à leurs yeux incroyable et incompréhensible. Et d'ailleurs, même il y a quelques jours, on parlait même de rétablissement, de la possibilité d'établir des relations diplomatiques entre Israël et l'Arabie Saoudite. Et toute l'action justement d'Israël était de susciter cette crainte. Et d'ailleurs, même les Émirats Arabes Unis, aujourd'hui même, dans un média israélien, ils reconnaissent que les Émirats Arabes Unis, qui ont signé un traité de paix avec Israël, depuis quelques jours, les Émirats Arabes Unis mettent le frein sur la coopération sécuritaire. C'est donc un bouleversement, et l'Occident, il sait que c'est un coup fatal porté à son hégémonie dans la région. Il ne faut pas se leurrer. C'est-à-dire que l'Arabie Saoudite, c'est vrai qu'elle avait montré déjà certains signes. La façon dont elle avait accueilli extraordinairement le leader chinois il y a un mois ou deux. Et puis les contrats qui ne sont plus libellés en dollars. Donc, et là, ça vient vraiment, pas le coup de grâce, mais disons un élément important. Et l'Occident sait bien que la terre se dérobe sous eux, c'est-à-dire la terre entière. C'est même non seulement l'Ukraine, l'Afrique, mais là aujourd'hui, maintenant le Moyen-Orient se dérobe à leur pouvoir et ils doivent être très très inquiets. Oui.
Monsieur Cohen, est-ce qu'ils admettent leurs échecs dans la présence des forces américaines dans la région? C'est la fin donc de l'hégémonie américaine dans la région. Est-ce qu'ils admettent déjà cet échec et ils vont se laisser faire en fin de compte?
Ils n'admettront jamais l'échec. La preuve, c'est que regardez les sanctions contre la Russie au sujet de l'Ukraine. Ils ne reconnaîtront jamais, enfin un jour ou l'autre, comme on dit en psychanalyse, le réel viendra frapper à leur porte. Le réel, il est invincible. On ne peut pas aller contre le réel longtemps. même aujourd'hui encore, ils continuent à supputer sur l'écroulement de la Russie, sur l'efficacité des sanctions, etc. Donc, ils vont certainement réagir, peut-être comme savent le faire les Américains ou les Israéliens, par une politique de déstabilisation. Et peut-être il faut craindre des mouvements en Arabie Saoudite ou des pays de la région. Donc les Américains, c'est leur seule carte aujourd'hui, c'est probablement de susciter des guerres, soit des mouvements islamistes, des Daesh, des revendications, etc. Il ne faut quand même pas oublier que l'Arabie Saoudite, on ne l'a jamais attaquée sur les droits de l'homme, par exemple, la place de la femme, alors que l'Iran, d'autres pays, on ne cesse de les harceler par ce biais. Donc on peut imaginer, par exemple, une espèce de révolution de couleur en Arabie Saoudite ou d'autres pays qui voudraient suivre cet exemple. Mais je pense qu'aujourd'hui, vraiment, la tendance est tellement forte du détachement vis-à-vis de l'Amérique qu'on ne voit pas vraiment... Un retour en arrière me paraît extrêmement invraisemblable.
Morgan Lotz, vous voulez bien... nous avions un petit problème technique avec vous tout à l'heure. Est-ce que vous voulez bien réagir face aux propos de M. Cohen, je vous prie?
Oui, bah écoutez, je suis tout à fait d'accord avec M. Cohen. On se détourne des États-Unis, le Moyen-Orient, l'Asie, même aujourd'hui l'Afrique, se détourne des États-Unis, tout simplement parce que la politique américaine n'a jamais été en faveur des autres pays, mais toujours d'un point de vue égoïste. Et je tiens à rappeler, et je suis tout à fait d'accord avec lui, lorsqu'il dit que les Occidentaux ne reconnaîtront pas leur échec parce que les Occidentaux ont un énorme problème, c'est le même qui a conduit Satan à être déchu du ciel, c'est l'orgueil. Et l'orgueil ne leur permet pas de reconnaître qu'ils ont échoué, de reconnaître que la politique de sanctions est un échec partout dans le monde, autant en Iran qu'en Corée du Nord qu'en Russie. Ces pays n'ont jamais été aussi puissants qu'aujourd'hui. Ils n'ont jamais aussi mieux réussi à développer leur programme économique, leur programme militaire, leur programme sociaux également. Et M. Cohen a tout à fait raison en disant que le réel va rattraper l'Occident. Et cette médiation chinoise et l'accord qui en a découlé, qui entraîne donc la reprise des liens diplomatiques entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, peut permettre de régler des enjeux de taille pour la région du Moyen-Orient. Alors, on peut penser notamment au retour de la Syrie dans la Ligue arabe, un autre sujet extrêmement important, la fin de la guerre au Yémen, qui est quand même le Yémen qui est quand même un pays martyr depuis 10 ans, et là c'est pareil, l'Occident a fourni des armes à l'Arabie Saoudite mais n'a jamais critiqué l'Arabie Saoudite sur l'utilisation de ces armes au Yémen. Pourtant, ce sont des faits qui relèvent de la Cour pénale internationale.
Absolument. Alors, Monsieur Cohen, bon, il est question bien sûr de la médiation chinoise dans ce rétablissement des relations entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Mais comme a évoqué M. Lotz, donc les grandes questions comme celle de la Syrie, et bien sûr le Liban également qui est en cause, la fin de la guerre au Yémen, et pourquoi pas la crise entre la Russie et l'Ukraine. Est-ce que vous croyez que la Chine, avec cette puissance diplomatique qu'elle a démontrée dans ce rétablissement, est en question?
En fait, le drame pour l'Occident, vraiment, il suffit d'être un observateur même de moyenne importance pour s'étonner du harcèlement de l'Occident contre la Chine actuellement, qui renforce l'alliance entre la Russie et la Chine. C'est totalement incompréhensible. Alors que l'Occident veut affaiblir la Russie, Il dévoile ses cartes contre la Chine, ce qui fait que leur alliance n'a jamais été aussi forte et probablement on ne connaît pas plusieurs de leurs conditions, notamment sur le plan militaire, stratégique, etc. Et puis l'Inde aussi se met de leur côté. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, l'Arabie saoudite profite, comment dire, d'une ouverture exceptionnelle sur le plan diplomatique. C'est-à-dire que c'est le moment ou jamais pour des pays comme l'Inde, la Chine, l'Arabie saoudite, la Turquie, de se dire, si je ne me libère pas aujourd'hui du joug américain, parce que les chefs d'État se rendent compte, les pays se rendent compte que l'Amérique est un État voyou, est un État qui pille, est un État qui est capable de tout, qui n'a aucune morale, aucune éthique. Et donc, ces pays, bien sûr, ils ont toutes les raisons de craindre les États-Unis. Mais aujourd'hui, il y a, grâce à la Chine et à la Russie, entre autres, et il y a vraiment la possibilité pour ces États de se libérer, de se dire « je peux rejoindre ». D'ailleurs, je crois que c'est Lavrov qui avait dit qu'il y a, je sais pas, je crois 15 ou 20 pays qui frappent déjà à la porte des BRICS. Ça veut dire qu'un grand nombre de pays expriment leur volonté de se libérer, d'exprimer cette libération. Et la Chine joue un très grand rôle dans tout ce processus.
Mais M. Cohen, également des pays africains, ils font partie de cette liste, n'est-ce pas?
Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, enfin, l'Afrique du Sud fait partie, mais l'Algérie a demandé à en faire partie. L'Argentine, je ne connais pas la liste, mais Lavrov avait parlé d'une quinzaine, entre 10 et 20 pays qui frappent à la porte des BRICS. Donc, c'est une expression d'une volonté d'indépendance. Ça veut dire qu'on n'a plus peur, voilà. Ça veut dire qu'on peut se libérer de l'emprise du dollar. Nous, il ne faut pas oublier quand même que l'Arabie saoudite a accepté de commercer avec la Chine dans une autre monnaie que le dollar, ce qui a coûté très cher à la Libye et à Saddam Hussein. Et donc, aujourd'hui, grâce à l'appui de la Chine et grâce à l'affaiblissement de l'Occident face à la Russie, beaucoup de pays peuvent se permettre de franchir le pas.
Oui. Morgan Lodz, est-ce que vous voulez bien nous parler également de cette inquiétude, de cette crainte des États-Unis et d'Israël et des pays européens quant à la médiation qui avance, la médiation chinoise qui avance dans les différents dossiers que ces pays-là n'ont pas pu réussir au cours de ces dernières années?
Oui, donc c'est indéniablement un succès pour la Chine qui, ça c'est forcément prévisible, va certainement continuer son rôle de médiation dans la région, qui va remplacer les États-Unis auxquels les pays, que ce soit d'Afrique, d'Asie centrale ou du Moyen-Orient, tournent le dos. Et il y a de quoi s'inquiéter pour les Occidentaux. Parce que d'une part, c'est déjà la perte d'un prestige, celui de la diplomatie, notamment française, qui pendant longtemps fut l'une des meilleures au monde, mais qui est depuis une dizaine d'années en déclin total sur absolument tous les continents. Et après, c'est aussi une inquiétude économique et stratégique. Une interrogation aussi se pose, et elle est de taille, quand sera-t-il des normalisations entre Israël et les pays arabes? Comment cela va-t-il se poursuivre maintenant que l'Arabie saoudite tourne le dos à ce bloc occidental et se tourne vers la Chine? Donc, voilà, une fois de plus, aujourd'hui, les accords de paix se font à Pékin et non plus à Washington. C'est quand même un tournant majeur et très impressionnant, puisque ça fait plus de 80 ans que les grandes décisions géopolitiques se prenaient à Washington, ou les grands accords étaient signés à Washington ou quelquefois en Europe. Aujourd'hui, c'est en Chine, c'est à Pékin. Pékin, qui a 80 ans, n'avait pas cette puissance. Donc on a vu, durant toute cette guerre froide, l'émergence de la Chine, qui aujourd'hui est en train de dépasser les États-Unis si elle ne l'a pas encore fait, et qui tout simplement est un partenaire, s'affiche comme un partenaire fiable pour le monde entier. Alors on peut citer l'accord sur le nucléaire iranien, ce sont les Américains qui ont quitté l'accord. Ce sont les Européens qui ont dit nous allons créer un sexe pour pouvoir commercer avec l'Iran et qui finalement n'a rien fait. Ce sont les Européens, les Occidentaux qui ont dit nous allons lever progressivement des sanctions et qui au final n'ont pas levé grand-chose. Donc comment une telle parole peut-elle être crue et respectée? C'est tout simplement impossible. Vous ne pouvez pas faire confiance à un partenaire qui, 3 ans après avoir signé un accord, le quitte, rétablit des sanctions, ne respecte pas sa parole, surtout que l'Iran a toujours respecté ses engagements. Donc, cette rupture de l'accord sur le nucléaire a été catastrophique pour les Occidentaux et a prouvé au monde entier que les Occidentaux ne sont pas un partenaire fiable. Au contraire, la Chine s'affiche comme un partenaire fiable qui respecte sa parole, puisque la Chine investit dans énormément de pays, que ce soit en Asie, au Moyen-Orient ou en Afrique, et la Chine fait ce qu'elle dit. Aujourd'hui, la Chine est un pays qui est en mesure de construire des infrastructures de n'importe quel pays, de les financer et surtout de former les habitants de ces pays à jouer leur rôle concernant ces infrastructures. Donc la Chine s'affiche comme un partenaire économique fiable, un partenaire politique fiable, et va remplacer les Américains à terme, plus ou moins court. Cependant, l'Iran et la Chine devraient quand même rester prudents. Pourquoi ? Parce que il est clair que les Américains et Israël ne vont pas être satisfaits de cet accord et de cette médiation. Donc il y a une possibilité que de nouveaux troubles émergent dans la région, notamment au Moyen-Orient, et je pense notamment au Caucase. Nous en avons parlé assez récemment sur Presse TV. Donc l'Occident n'est pas encore tout à fait chaos. Et il n'en est que plus dangereux, particulièrement les États-Unis qui s'effondrent et un pays qui a dominé le monde pendant 80 ans ne va pas accepter de passer la main, surtout aux Chinois. Donc c'est ce dont je vous parlais avant, le péché d'orgueil que commettent les
Absolument.
Occidentaux, c'est de ne pas comprendre qu'aujourd'hui, leur domination est finie. L'Empire romain a dominé 300-400 ans, le califat a dominé 300-400 ans, l'Occident a dominé ces 200-300 dernières années, et aujourd'hui il passe la main, c'est le cycle de l'histoire, et il faut que les Occidentaux se rendent compte qu'ils n'écrivent pas l'histoire, mais la vivent.
Eh bien, Morgan Lotz, depuis l'Alsace, je rappelle que vous êtes iranologue et juriste en droit international, et vous avez écrit plusieurs ouvrages sur l'Iran. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, un grand merci à M. Jacques Cohen, donc écrivain et analyste politique, qui nous a accompagnés depuis Paris. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Ici le Moyen-Orient.
Très chers amis auditeurs, bienvenue au programme portant sur l'actualité de l'Asie de l'Ouest. Restez avec nous jusqu'à la fin de ce programme. Les pays faisant l'objet des sanctions américaines doivent s'unir afin de rendre inefficace l'arme des sanctions, et nous avons la ferme conviction que cela est bien faisable, a affirmé le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Ali Khamenei. Le leader a fait ses remarques lors d'une audience accordée au président biélorusse Alexandre Loukachenko en visite lundi 13 mars à Téhéran. Faisant allusion au terrain d'entente existant entre l'Iran et la Biélorussie, le leader a affirmé que les sanctions imposées par les États-Unis à l'Iran et la Biélorussie et les mesures d'intimidation adoptées par Washington et certains États occidentaux contre Téhéran et Minsk en faisaient partie. Les pays qui ont été sanctionnés par l'Amérique doivent détruire l'arme des sanctions en se coalisant et en coopérant les uns avec les autres, a précisé le guide suprême de la révolution islamique. Faisant référence aux sanctions américaines imposées à l'Iran depuis la victoire de la révolution islamique en général et à l'imposition des sanctions les plus sévères au cours des 12 dernières années en particulier, l'Ayatollah Khamenei a affirmé que les sanctions sévères ont révélé à l'Iran ses propres capacités et forces intrinsèques. Si les pays sanctionnés par les États-Unis mettent à profit leurs potentiels respectifs, ils pourront tous profiter des avantages de cette mutualisation, a ajouté l'Ayatollah Khamenei. Le leader a noté que l'Iran et la Biélorussie pouvaient coopérer dans de nombreux domaines, notamment la science et la technologie, le commerce et les actions politiques au sein des organisations internationales. En allusion aux questions liées au corridor de transport international nord-sud, l'Ayatollah Khamenei a affirmé « Le lancement du corridor de transport nord-sud sera dans l'intérêt des deux pays et aussi au bénéfice de la Russie et de l'ensemble de la région. Les deux parties doivent donc œuvrer dans le sens du lancement du projet. » Pour sa part, le président biélorusse a affirmé que sa visite en Iran visait à ouvrir un nouveau chapitre dans les relations entre les deux pays, s'engageant à donner suite à tous les accords bilatéraux grâce à la coopération et à la détermination de son homologue iranien. La République islamique d'Iran a fait de grands progrès et a acquis des expériences incroyables sous les sanctions et nous pensons que si les sanctions dues à l'embargo sont utilisées correctement, elles peuvent offrir une opportunité en faveur du progrès, a déclaré le président biélorusse. Il a ajouté qu'à travers sa visite en Iran, il souhaitait également se familiariser avec les acquis obtenus par les Iraniens dans divers domaines. « Nous avons appris à connaître nos vrais et faux amis dans les conditions difficiles qui se présentent actuellement sur la scène internationale et nous sommes déterminés à nous engager dans une coopération spéciale avec nos vrais amis », a conclu le président de la République de Biélorussie, Alexandre Loukachenko. L'Iran et la Biélorussie ont signé 8 documents de coopération dans les domaines de l'industrie, des mines, du commerce et de l'agriculture lundi 13 mars. Lors d'un point de presse conjoint avec son homologue biélorusse, Alexandre Loukachenko, lundi 13 mars, au palais Sadabad de Téhéran, le président Ebrahim Raïssi a affirmé que les accords conclus avec la Biélorussie seront fructueux. La République islamique a su transformer la menace des sanctions unilatérales anti-Téhéran en une opportunité. Nous sommes prêts à partager nos expériences avec le pays ami, la Biélorussie. Nous sommes déterminés à promouvoir nos relations régionales et transrégionales et nous avons eu des négociations fructueuses avec le président biélorusse, a déclaré le président iranien lors de ce point de presse. Pour sa part, le président biélorusse a affirmé qu'avec la signature des documents de coopération, les deux pays pourraient atteindre un volume de commerce de 100 millions de dollars. Les deux pays souhaitent un monde multipolaire et ils ont confiance l'un en l'autre, a-t-il fait remarquer. Le président biélorusse s'est rendu à Téhéran à l'invitation du président Raïssi, après avoir déclaré dans un message le 11 février, à l'occasion de l'anniversaire de la révolution islamique, qu'il souhaitait se rendre en Iran pour parler des questions bilatérales et internationales. L'Iran et l'Arabie saoudite ont convenu de rétablir leurs relations et de rouvrir leurs ambassades. Des journées de négociations trilatérales Iran, Arabie saoudite, Chine à Pékin ont abouti à la réconciliation entre l'Iran et l'Arabie saoudite, qui ont décidé de reprendre leurs relations diplomatiques et de rouvrir leurs ambassades dans les deux prochains mois. Le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien Ali Shamrani était à Pékin depuis le 6 mars pour des négociations actives avec son homologue saoudien sur le règlement des différends entre Téhéran et Riyad. Ainsi, l'Iran, la Chine et l'Arabie saoudite ont signé, vendredi 10 mars, une déclaration commune. La République islamique et le Royaume d'Arabie saoudite ont remercié l'Irak et Oman pour avoir accueilli les négociations en 2021 et 2022 et la République populaire de Chine pour avoir accueilli le dernier cycle des pourparlers. négocié par la Chine, l'accord fait suite à des négociations intensives entre le représentant du leader de la révolution islamique Ali Chabrani, le ministre d'État saoudien Mossad Ben Mohammad Ali Aiban et le directeur du bureau de la Commission des affaires étrangères du comité central du Parti communiste chinois, Wang Yi. Les ministres des Affaires étrangères iraniens et saoudiens devraient tenir une réunion pour mettre en œuvre la nouvelle décision et prendre des dispositions pour l'échange d'ambassadeurs. Le PDG de la compagnie des chemins de fer iraniens a annoncé ce mardi 14 mars que l'Iran et l'Irak étaient parvenus à un accord sur l'accélération de la construction du chemin de fer Shahlam-Cheba-Sora et l'achèvement des travaux de construction du train commun Téhéran-Karbala. Au cours de la commission mixte des deux pays qui s'est tenue lundi et mardi à Bagdad, de bonnes ententes ont été conclues avec les responsables du nouveau gouvernement irakien dans le domaine de la liaison ferroviaire, notamment l'accélération de la construction du chemin de fer Shahlam-Cheba-Sora, a affirmé Mirat Saleh. Les deux parties ont également annoncé qu'elles étaient prêtes pour une connexion ferroviaire depuis le passage frontalier de Khosravi en Iran vers Karbala, a-t-il ajouté. Le chemin de fer reliant la ville pétrolière du sud de l'Irak, Bassora, et la ville frontalière iranienne de Shahlamche contribuera à faciliter les exportations vers l'Irak et à étendre le pèlerinage entre les deux pays. Le chemin de fer Shahlamche-Bassora est en chantier depuis plus de 20 ans. Les deux parties ont signé un nouvel accord en décembre 2021 pour achever la liaison ferroviaire en 2 ans. La connexion est très importante pour l'Iran et l'Irak, à la fois en termes de transit, de déplacement des passagers, en particulier au moment de l'Arbaïn lorsque des millions de pèlerins se rendent en Irak. Une fois achevé, il créera un corridor de transit ferroviaire est-ouest vers la mer Méditerranée, reliant le port iranien de Khorramshahr à Latakia en Syrie via Bassora en Irak. Une base américaine à Deir ez-Zor en Syrie a été ciblée par une attaque à la roquette. La coalition dirigée par les États-Unis a affirmé dans un communiqué que deux roquettes avaient visé dans la soirée du lundi 13 mars ses forces dans la province de Deir ez-Zor, à l'est de la Syrie, prétendant que l'attaque n'a pas fait ni victimes ni dégâts matériels. Deux roquettes de 107 mm ont ciblé les forces de la coalition à l'est de Deir ez-Zor en Syrie, aujourd'hui vers 21h, heure locale en Syrie, lit-on dans un communiqué de la force opérationnelle interarmée combinée d'opérations spéciales de la coalition. Des attaques de ce type mettent en danger les forces de la coalition, les forces alliées et la population civile et sapent la stabilité et la sécurité durement gagnées en Syrie et dans la région, a prétendu le porte-parole de cette force, Jonathan Ferrer. De son côté, le commandement central américain CENTCOM a déclaré lundi que deux roquettes avaient atterri près du site de soutien de la mission des forces de la coalition à Green Village, dans le nord-est de la Syrie, à 20h23 heure locale lundi. Aucun soldat américain ou de la coalition n'a été tué ou blessé et il n'y a eu aucun dommage à l'infrastructure ou à l'équipement de la coalition, selon le communiqué du CENTCOM. Les forces américaines dans le nord-est de la Syrie enquêtent sur l'incident, a déclaré le porte-parole du CENTCOM, ajoutant que pour le moment, aucun groupe n'a encore revendiqué ces dents. La branche armée du mouvement de résistance palestinien djihad islamique a organisé un exercice militaire en signe d'appui au peuple de la Cisjordanie occupée. La résistance palestinienne a tiré le lundi 13 mars au matin plusieurs missiles en direction des côtes de Gaza, le bruit des tirs retentissant dans diverses régions de la bande de Gaza. Les brigades Al-Quds, branche armée du djihad islamique de la Palestine, ont mené cet exercice militaire avec pour devise la loyauté envers la Cisjordanie. les tirs de missiles et d'obus de canon, le déploiement d'effectifs militaires et les opérations des unités d'assaut et logistique font partie des activités prévues dans le cadre de l'exercice du djihad islamique pour toute la journée de lundi. Plus tôt dimanche, le membre du bureau exécutif et directeur du service de presse du djihad islamique, Anouar Abou Taha, a qualifié de guerre en bonne et due forme la poursuite des agressions sionistes contre le peuple et les combattants palestiniens. Un Palestinien a été tué, une centaine d'autres ont été blessés, tandis que près de 80 maisons palestiniennes ont été brûlées, une centaine de voitures calcinées, un camion de pompiers et trois ambulances du Croissant Rouge ont aussi été attaquées par les colons israéliens pendant la soirée de dimanche 26 février dans le nord de la Cisjordanie occupée par une bande de colons habitant la région. Voilà, ainsi s'achève ce programme. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, au revoir et passez une très bonne semaine.
Mm-hmm.